Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Mélie Canafi, moi ça va bien, et toi?
Ça va bien, ça va mieux. Alors, bon, petite PLS la semaine dernière, désolé, pas d'épisode, ça arrive.
Ça arrive.
J'ai encore la voix un petit peu éraillée, il est possible que je tousse et que le nez coule. Bon, j'espère que vous le verrez pas, ne zoomez pas. Mais voilà, on va faire au mieux pour quand même un épisode énorme programme hein, pour cette semaine avec des jeux très attendus. On va commencer avec le nouvel Assassin's Creed hein, sous-titré Mirage. Le retour de la saga après une absence de 3 ans. Bon, il est vrai qu'on a eu droit à quelques DLC de Valhalla entre-temps, des DLC plus longs hein, que cet épisode Mirage. Mais bon, nous, on attendait un nouveau jeu solo. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur 2 jeux de voiture, Forza Motorsport, le versant simulation, entre guillemets, attention, de la série que l'on doit au studio Turn 10, et The Crew Motorfest, le nouvel épisode du jeu de bagnole d'Ubisoft. Vous retrouverez bien entendu l'interlude de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur l'émission 118, dans laquelle Nico, tu nous parlais de la guerre des consoles portables, et ouais. Tu évoquais la version mobile Apple de Resident Evil 4 Remake.
Ouais, bah il restait une question à se poser à ce moment-là, c'était à quel prix serait proposé le jeu. Donc on savait que c'était un achat qui comprenait la version Mac, la version iPhone et la version iPad. Ouais. Et on se posait la question en disant à combien ils vont mettre le prix, parce que sur téléphone, les gens sont pas habitués à payer cher. Et c'est $60. Donc c'est un prix bon quasiment du full price, quoi. Donc alors évidemment, le fait est que ceux qui vont l'acheter, ce sera principalement, j'imagine, pour jouer sur Mac. Mmh. Mais quand tu vas dans ton App Store la brique Resident Evil 4 à 60 balles, je pense que ça va peut-être un petit peu décourager des gens.
Même si voilà, c'est un prix pour un écosystème.
Ouais. Donc on voit qu'Apple, ben, on en parlait la dernière fois, c'est qu'ils sont peut-être plus en train de tester des modèles plutôt qu'en train de voilà dire on va faire comme ci comme ça. Donc à voir, pour rappel, le jeu sera chopable gratuitement et tu pourras donc le commencer, et à partir d'un certain point il faudra payer pour débloquer le reste, quoi.
Voilà, on peut au moins l'essayer. Autre retour sur le départ hein, de Jim Ryan, mais bon, tu vas peut-être nous en parler plus tard.
Ouais, on a suffisamment parlé des politiques de Microsoft et Sony pour ne pas évoquer quand même le départ de Jim Ryan, hein, qui a été un petit cataclysme la semaine dernière. Donc il est possible effectivement que j'en parle dans 2-3 semaines, ça dépendra de l'actu machin.
Pas mal de jeux en ce moment.
Donc ça sera l'occasion de voir si le rachat d'Activision est enfin validé, parce que c'est vrai que on traitait pas tellement le sujet au jour le jour parce que on attendait que ce soit réglé. Et voilà, faire un petit peu maintenant l'état des lieux que ça donnera pour Xbox et pour PlayStation une fois que ce rachat sera signé, quoi.
Ok, donc on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour suivre tout ça. Nico, c'est à toi, tu vas nous parler d'un jeu qu'on attendait énormément, d'une saga qu'on aime tout particulièrement, c'est Assassin's Creed et son épisode Mirage.
Ouais, ben on l'attendait énormément parce qu'il y avait cette promesse hein, de retour aux sources. Hein. On parlait d'un jeu avec une map qui serait moins grande, d'une durée de vie plus ramassée, d'un nombre de quêtes resserrées, d'un arbre de compétences qui serait moins tentaculaire. Fini le loot par milliers, fini les ennemis invincibles en cas de sous-niveau.
Ouais.
Bah écoute, je pense qu'on a eu ça dans le jeu et franchement, ça fait du bien, hein, c'est cool. Et pour beaucoup, hein, moi le premier, Valhalla, il a cristallisé quand même pas mal de frustration, même si j'ai beaucoup apprécié le jeu. Mais il avait un nombre de chapitres qui était infini en fait. Et pour le terminer, enfin, j'avais passé 60 heures et encore, j'étais vraiment à passer en ligne droite au bout d'un moment. Donc trop long, trop too much. Et il semble que Ubisoft nous a entendu là-dessus quoi. Donc retour aux sources, ça se passe notamment à travers le cadre du jeu, donc le Moyen-Orient médiéval,
oui. Un
peu à la manière du premier épisode. Donc on se situe dans un Bagdad moyenâgeux, ce qui est plutôt cool. Mais aussi retour aux sources à travers le héros qui est là un membre de la confrérie des assassins. Enfin, qui s'appellent ceux dont on ne voit pas. Mmh. Donc, ils prendront le nom d'assassin au moment de Assassin 1, justement. Donc, avant ça, c'est ceux qu'on ne voit pas. Donc, vraiment, là-dessus, on se retrouve en terrain conquis, quoi. Donc, ce retour aux sources, il était souhaité par les joueurs, hein, mais aussi par Ubisoft. Et il a été largement mis en avant, cet argument, comme argument fort massu pendant la promo du jeu. Et il faut dire que l'éditeur, il traverse une période un petit peu économique et structurelle qui est assez compliquée, hein. On en a déjà parlé ici. Et surtout, bah, l'année des 15 ans de la franchise, il fallait un épisode, hein, il fallait marquer le coup, sinon ça aurait fait mauvais genre, quoi. Et surtout, bah, c'était la première fois dans l'histoire de la licence qu'il fallait attendre 3 ans entre 2 épisodes. On n'était pas habitués, et donc ça nous démangeait un petit peu, quoi, de revenir là-dessus. Quoi. Donc on revient à la boot, on revient là où tout a commencé, et on va même nous proposer un petit filtre graphique bleuté pour faire rendre l'image un peu comme AC1. Alors je sais pas si tu l'as essayé, toi, moi je l'ai pas spécialement essayé, mais au moins c'est un petit peu rigolo. Quoi.
J'ai juste mis hier soir, hein, parce qu'on en a parlé. Est-ce qu'on rentre direct dans le sujet ou pas sur ce sujet du filtre? Parce que je trouve qu'il a moyen pas trop de sens dans le, parce que sur Assassin 1 il y avait tout un délire sur la méta-histoire, il y avait vraiment une connotation importante sur cette colorimétrie qui voulait dire quelque chose, qu'on était finalement à travers le vitre le filtre d'une simulation, ce qui aujourd'hui a peut-être un peu moins de sens.
Carrément.
Donc on est clairement dans quelque chose qui est accessoire, dans quelque chose qui est artificiel, et je trouve que ça a un peu de sens aussi.
Et c'est vrai que ce côté gimmick, on va en reparler, on va le retrouver à de nombreux aspects, mais c'est vrai que chaque ville dans Assassin 1 avait même son filtre. Là, le côté bleuté, ça correspondait qu'à une seule des villes, donc on voit c'est un peu le souvenir fantasmé qu'on en a plus que le jeu en lui-même, quoi. Donc il faut dire quand même que les choses, ben, elles ont bien changé depuis la sortie de ce premier épisode il y a 15 ans déjà. Et si Assassin's Creed 2, qui reste certainement mon préféré à ce jour, bah, est certainement devenu le modèle du jeu open world next-gen, qu'on a tant connu et qui a inspiré les Horizon, les Ghost of Tsushima, l'Ombre du Mordor ou même les récents Spider-Man, bah, le fait est qu'on peut pas vivre éternellement sur ses acquis, en fait, quoi. Et finalement, entre retour aux sources et régression, je trouve qu'il y avait qu'un pas qui est pas si éloigné et j'ai pu avoir quelques craintes sur ce mirage-là. Alors on va pas se mentir, j'ai trouvé le jeu plutôt agréable, mais bon, moi chaque année tu me files un Assassin's Creed avec un setting différent, bah ça me fera plaisir, tu vois, me balader dans un des environnements aussi beaux, un période historique fascinante comme ça, pour moi ça fait le job, mais faut quand même peut-être être un peu plus exigeant que ça, quoi. Donc j'ai trouvé le jeu agréable, hein, certes, mais je l'ai fait finalement de manière un petit peu automatique et sans grande passion. Et à mon grand regret, et c'est ça qui va me gêner principalement, c'est qu'il y a pas une seule idée, que ce soit du gameplay, que ce soit de la narration, que ce soit du level design, ou une seule situation que j'ai pas vécu dans un épisode précédent, en fait. Okay. Et ça, pour moi, ça pose un vrai souci. Alors, il y a bien le principe des enquêtes dans le jeu qui est mis en avant, à savoir que dans la ville de Bagdad, il y a 4 bureaux d'assassins, et chaque bureau, en fait, va te demander de suivre une piste pour déterminer l'identité d'un des 5 membres de l'ordre, donc les grands méchants, l'équivalent des Templiers qui deviendront plus tard, que tu dois donc démasquer et tuer. Et là, tu peux un petit peu progresser comme tu veux, dans le sens où, voilà, selon le bureau auquel tu vas te rendre, ben, ça peut déclencher les missions dans un ordre un petit peu différent. Et si t'as envie, tu peux même picorer de l'une à l'autre là-dessus. Donc, c'est plutôt sympa, mais on parlait de gimmick. Je trouve que c'est quand même un petit peu un gimmick dans le sens où, finalement, ben, dans la pratique, tu vas finalement continuer à suivre seulement tes points d'intérêt qui sont affichés à la main sur la map, ou bien, ben, déclencher ta vision dingue pour accomplir ta mission. Donc, c'est plus une espèce d'enrobage, hein, là-dessus, une espèce d'enrobage. Et si tu aimes la série ou que tu veux la jouer un petit peu roleplay, ça marche quand même, c'est plutôt rigolo. Mais ça reste un petit peu un détail, quoi. Je pense à toi, ça a un petit peu plu aussi, ce côté enquête.
Alors moi, il m'a beaucoup plu, ce côté enquête. Je trouve vraiment que c'est un vernis qui était très intéressant pour l'immersion. Je me suis à fond... J'ai joué le jeu, et je suis allé dans l'enquête en écoutant tout ça, comment ça se passait. Et je suis d'accord avec toi, c'est un gimmick, mais en fait, je trouve à mon sens que c'est l'histoire du jeu vidéo. Tout n'est que gimmick. Tout n'est que enrobage. Et je me rappelle d'un autre jeu que tu avais un petit peu tensé, Ghost of Tsushima, qui en fait, plutôt que de donner des objectifs clairs, avait simulé par exemple la direction du vent, plutôt que de nous dire qu'il y avait des sous-objectifs très clairs, nous faisait aller chercher un petit renard. Et toi, t'avais dit « Ah ouais, c'est artificiel, ça me plaît pas ». Au contraire, moi j'avais trouvé en tout cas au moins le geste honorable de maquiller et de faire justement en sorte que tout soit un petit peu plus cohérent et tout soit peu plus dans le sens du jeu, et je trouve que là tu as raison, hein. C'est vrai que ce système d'enquête, au final, si tu t'enlèves, si tu regardes vraiment de l'arborescence du game design, c'est un amoncellement de missions et de soumissions, mais quand t'es dedans, moi je trouve que l'illusion marche, et pour le coup ça, je trouve ça assez efficace.
Donc une fois qu'on a déterminé l'identité d'un des membres de l'ordre, on va devoir passer aux fameuses missions d'assassinat. Et là, à la manière d'Unity aussi, on renoue un petit peu avec le passé, avec des séquences où en fait, tu auras plusieurs opportunités, ils appellent ça des opportunités, qui vont pouvoir t'aider à progresser et à effectuer cet assassinat. Ça peut être de mandater un groupe armé qui va créer une diversion, en fait, pour permettre de pénétrer dans le lieu gardé. Ça peut être une enquête pour découvrir qu'il y a un accès caché ou souterrain qui va te faciliter la tâche. À chaque fois, c'est des choses qui sont pas forcément obligatoires, mais qu'il a aussi créé un petit peu une sorte de narration et que tu vas pouvoir te jouer le délire là-dessus. Donc encore une fois, je trouve que c'est un petit peu superficiel, on est un petit peu dans le gimmick, mais voilà, si tu veux jouer le jeu, ça fonctionne.
Ça va dans le sens de ce qu'on disait juste avant, ça va dans le sens de l'enquête où tu dois, entre guillemets, te poser, utiliser ton aigle, vraiment regarder les points d'intérêt, vraiment les scanner, et juste scanner jusqu'à ce que tu puisses trouver justement un indice, et ça va un petit peu baisser le rythme. Et je trouve aussi que cette histoire de rythme, c'est important pour se distinguer des précédents Assassin's Creed, c'est on est là à plus poser.
Et je sais pas si tu seras d'accord, mais je note quand même qu'il y a du mieux qui a été fait sur l'intérieur des bâtiments qu'on visite, et souvent ils sont un peu plus élaborés que d'habitude, un peu plus labyrinthiques, et je trouve qu'ils mettent du coup, ils sont plus adaptés à l'infiltration, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ça, c'est plutôt cool, quoi.
Je suis super d'accord et même je mets un mot sur tout ce qui est direction artistique et souci du détail. Moi, j'ai de la peine à chaque fois pour les développeurs, quels qu'ils soient, dans ces grands jeux open world ou pas, où on traverse à toute balle des environnements qu'ils ont mis des mois et des semaines à développer. Mmh. Et si vous penchez vraiment sur les détails, c'est au début du jeu, je vous spoil rien, mais il y a tout un quartier des teintures, par exemple. Mmh. Mais c'est juste magnifique. Et ça, tu peux ou ne pas le voir ou t'en foutre complètement. C'est vrai. Vraiment, ce Mirage, pour le coup, il a quand même un souci du tech qui est très, 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 très intéressant.
Et donc, on a Bassim, notre héros, qui se voit octroyer d'un pouvoir, en fait, qui lui permet de cibler simultanément plusieurs ennemis. Et plus vous améliorez le pouvoir, plus vous pouvez cibler un nombre d'ennemis différents. Et une fois que vous déclenchez ce pouvoir, vous allez tuer instantanément tous ces ennemis. Donc, c'est vraiment un système de téléportation qui passe d'un ennemi à l'autre et qui permet même de se projeter à des dizaines de mètres de là où on se trouve là-dessus. Alors, au-delà du fait que je trouve que c'est un pouvoir qui est absolument fumé, pour moi, là, c'est une reprise un petit peu discrète, un petit peu en soum-soum de ce qu'on voyait dans Splinter Cell Conviction, le Mark and Execute.
Ça, Soum Soum, même si c'est exactement le même, et même la façon de recharger le
Mark and Execute, c'est exactement pareil. Ouais, c'est ça. Et donc, à chaque fois que tu fais un assassinat discret, tu vas, hop, ça te rajoute une pastille qui te permettra de cibler une personne. Et donc, au bout de 2, 3 ou 4, tu pourras déclencher comme tu veux, quoi.
Et c'est fumé, mais est-ce que c'est pas dommage pour la cohérence, là, je trouve?
Là où ça paraissait logique avec Sam Fisher, je trouve, parce que t'incarnes un espion surentraîné de la NSA, et surtout qui a des armes à feu, donc qui lui permet d'abattre à distance des mecs.
Ouais.
Là, dans cet assassin, c'est jamais vraiment justifié. Alors, il y a un effet un peu glitch Animus là-dessus, mais justement, ce côté Animus s'est complètement laissé de côté.
Ouais,
et surtout, au-delà d'être pas justifié scénaristiquement, c'est que le jeu, là où il t'encourage justement à construire tes assassinats avec patience, avec méthode, là, on te donne un moyen qui peut tout gâcher. Et moi, vraiment, je me suis forcé à pas l'utiliser, ce truc, parce que je trouvais que ça venait complètement à l'encontre du message du jeu, quoi.
Ouais, c'est clair. Bien que, si tu l'utilises pas, les séquences d'infiltration sont souvent intéressantes. Les personnages, les cibles sont bien gardées, où il va falloir un petit peu fouiller les systèmes les mecs qui tournent sur eux-mêmes.
Les rondes.
C'est quand même cool. Et là, on a vraiment une espèce de features qui arrive par-dessus. Pas qui gâche tout, mais même toute l'ambition d'immersion qu'on a évoquée, ça fout tout en l'air et qui va un petit peu mettre à mal le gameplay, quoi.
Là, on sent vraiment le côté l'éditeur qui veut sa killer feature pour l'annoncer dans les trailers de communication. Et voilà, le truc qui est peu foutu.
C'est pas illogique, je trouve. Et c'est un manqué. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, t'as jamais joué quelque chose dans Mirage que tu n'as jamais vécu dans un précédent. Il t'a manqué de la nouveauté, il t'a manqué une feature, il t'a manqué quelque chose qui te fasse te dire « Ah, ça, je l'ai jamais vu. » Mais manque de bol, c'est qu'ils sont allés chercher un truc qui...
Même pour ça, ils sont allés le piquer dans un autre jeu.
Peut-être contrainte de temps.
Ouais. Donc, en tout cas, moi, il y a le scénario, quand même, je trouve qu'il peut apporter quelques motifs de satisfaction, mais je suis pas certain que la fin du jeu, par exemple, soit très très claire pour les non-initiés, ceux qui ont pas fait Valhalla ou qui connaissent pas bien la série.
Mais qui a fini Valhalla,
Alors que, justement, l'objectif d'un jeu qui ne possède aucune méta-histoire, parce que, voilà, pour la première fois dans la série, c'est le cas dans ce Mirage, il n'y a aucune méta-histoire. On sait que c'est un problème, qu'Ubisoft se traîne ça comme un boulet, parce que ça plaît à des fans comme nous, mais c'est une contrainte d'avoir cette espèce de fil rouge scénaristique d'un épisode à l'autre.
Mais vraie difficulté. Là, pour le coup, moi, je les comprends en 2000, ouais. C'est que... Comment tu fais, quoi?
Mais on se disait, justement, le jour où ils vont enfin laisser tomber la méta-histoire, ça sera pour permettre d'avoir une histoire cohérente et compréhensible par tous. Et là, je trouve que finalement, c'est peut-être pas trop le cas, quoi, avec cette fin de jeu.
Parce qu'ils ont pris un héros déjà préexistant. Mm. Tu vas en parler du héros, moi, c'est j'ai un petit bémol sur le héros.
Ouais, non, vas-y.
C'est rare, ce sont les héros de Assassin's Creed que j'aime pas trop, que je m'attache pas trop. Et Bassim, qui je crois est plutôt apprécié, moi, j'ai pas réussi à m'accrocher. Alors peut-être parce que tout ce feeling Assassin 1, moi, j'aime beaucoup Altaïr, tout ça. Bassim, c'est pas un point fort pour moi, en tout cas.
Ouais, c'est vrai que dès le début, il a ce côté un peu bené, un peu Aladdin, quoi, tout bêtement, le voleur des rues qui aspire à mieux et tout. Donc voilà, c'est pas forcément plus développé, même en termes de design. Hein. Plus tard, tu pourras gagner sa tenue d'assassin une fois qu'il aura fait ses preuves, qui est plutôt stylé. Mais avant ça, et tel qu'on le voit dans les artworks et tout, c'est rare que je joue un assassin pas ultra classe dans les épisodes, et là, c'est le cas. Quoi.
Après, très perso, là, du coup.
Ouais. Donc on a ce jeu dont je disais le scénar plutôt cool, et sa durée de vie resserrée aussi, qui évite le ventre mou, donc le jeu là-dessus est plutôt rythmé, ça c'est cool. Et malgré tout ça, et malgré les réserves que j'ai, il y a quand même la ville de Bagdad, qui est la grosse réussite du jeu. Tu parlais, toi, des détails et tout. C'est vrai que ça fourmille de détails partout. L'ambiance, elle est ouf. Vraiment, ça reste le point fort de chaque assassin. C'est sa ville et la retranscription de cette réalité historique, quoi. Donc, moi, il me semble quand même que l'appréciation qu'on peut avoir de cet Assassin's Creed Mirage va entièrement dépendre d'une chose, s'il te provoque un sentiment vraiment le côté Madeleine de Proust. Mmh. Alors moi, ça n'a pas forcément été le cas, même si j'ai apprécié ce retour à une certaine sobriété, ben, j'ai pas été plus embarqué que ça. Toi, je sais que t'as eu ce côté vraiment un peu retour aux sources, Madeleine de Proust, qui t'a un peu tenu, quoi.
Alors, c'est exactement ça. C'est vraiment Madeleine de Proust nostalgie, parce que ça m'a évoqué ce début d'Assassin's Creed, de la saga, que j'ai beaucoup apprécié, qui me rappelle quand on a écrit les premiers bouquins, tout ça. Mais c'est aussi en termes de scope. C'est-à-dire que Assassin's Creed, à l'époque, n'était pas du tout ce qu'est Assassin's Creed aujourd'hui. C'est vrai que les assassins ont un rythme de publication, ont eu un rythme de publication très très fréquent, et chaque épisode apportait une petite évolution. Petit à petit, ils étaient très sécurisés, comme ça ils avançaient à tâtons, ce qui fait que avec plus d'une dizaine d'épisodes, tu te retrouves avec Assassin 1 et Valhalla qui ont absolument rien à voir. Et là en fait, on se retrouve avec Mirage et on se demande, est-ce que finalement on a fait une révolution, mais pas une révolution dans le sens on a tout changé, mais on est revenu sur nos pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que c'est plutôt la nostalgie qui va vous dicter, ou mais aussi le scope. Est-ce que vous en avez assez de cette de la précédente trilogie qui était plus RPG, plus longue. Moi Assassin, ils m'ont perdu avec Odyssey, Origin et Valhalla.
Après, c'est vrai que dans les discussions qu'on avait, t'avais une idée intéressante, c'est quitte à jouer le retour aux sources, fallait le faire pleine balle, quoi.
Ouais, mais ça, c'est vraiment, je pense, une question de conjoncture, de comment s'est passé le développement de ce jeu qui était normalement un DLC et qui est devenu en fait un épisode transitoire. Qu'est-ce qu'il en est là à retourner sur les terres, en fait, carrément hein, au premier degré, sur les terres de Alamut, sur le feeling moyen-oriental, sur le gameplay plus infiltration, plus posé. C'est vrai que est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de faire un Assassin's Creed 1 remake sur lequel peut-être tout le monde aurait été un peu plus complaisant, parce que en fait Mirage n'est qu'une version extrêmement amélioré d'Assassin 1. C'est une version fantasmée, plus aboutie, plus peaufinée, moins squelettique. C'est vrai que c'était une structure Assassin 1. Et finalement, ce Mirage, c'est une version bonifiée sur tous les points.
Mais sans ce poids de la nostalgie qui nous aurait peut-être été permis d'être plus coulant sur ce remake d'Assassin 1 potentiel.
Peut-être,
En tout cas, voilà, le Mirage, Ubisoft en était clair, il était vendu comme un épisode un petit peu mineur, et c'est ce qu'il est, en fait, ni plus ni moins, et je dis vraiment pas ça de manière péjorative, hein. Tu l'as dit, c'est des questions de scope, des questions de... On sait que ça a été d'abord un DLC de Valhalla, ça a été imaginé comme ça à la base, et nul doute que Ubisoft Bordeaux, donc ils développent le jeu, ils ont pas eu les moyens, ils ont pas eu le temps qu'à Montréal pour, par exemple, un Origins ou Québec pour un Odyssey, quoi. Par contre, je trouve que cet épisode, il fait clairement s'interroger sur le futur de la saga, parce que j'ai l'impression que la série, aujourd'hui, elle sait plus trop où elle habite, en fait. Hein. On voit qu'en 15 ans, tous les piliers fondamentaux de la série, quels qu'ils soient, ils ont été à un moment trahis dans un jeu, trahis, je mets des guillemets, hein, mais d'une manière ou d'une autre.
Perverti.
La verticalité des villes, il y a passé un moment où on l'a plus trop eu, à partir d'Assassin 3, tout ça. Le fait de jouer un assassin, dans Valhalla, par exemple, on est complètement décorrélé de ça, dans Odyssey aussi. La présence de la foule aussi, qui est un fort argument. Oui. Il y a des jeux où c'est plus du tout mis en avant. Et quand on voit la différence avec des vidéos d'Unity et même de Mirage, on se rend compte, dans Unity, c'était autrement plus important, quoi, les histoires de foule. Mais à chaque fois, tu le disais, chaque épisode avait quand même cette brique de nouveauté, qui venait un petit peu jouer le rôle de cache-misère, tu vois, l'arbre qui cache la forêt. Et du coup, dans ce Mirage qui revient aux sources, encore une fois, sans ce voile de nouveauté, tu retrouves le squelette du jeu qui est un petit peu à nu. Et tu te rends compte, finalement, que ça n'a pas tant changé que depuis Assassin 1, voire Assassin 2, quoi. T'as toujours ces mêmes mécaniques, ces filatures avec le mec qui va s'arrêter tous les 10 mètres pour se retourner. Ça, c'est depuis les premiers épisodes, quoi. T'as ces gardes que tu peux abuser en sifflant et te les faire les uns par un et tout. Ça fonctionne encore pareil. Ensuite, t'as vraiment ces mecs dont il faut faire les poches pour récupérer une clé qui va te permettre d'accéder à un lieu gardé. Ces zones un peu grises où tu sais pas trop si les gardes ils vont se jeter sur toi ou si t'es libre d'eux. Ça existe depuis 15 ans et ça n'a toujours pas été réglé. Et au final, l'identité d'assassin, là où on pouvait dire c'est le parcours, c'est l'infiltration et tout. Aujourd'hui, l'identité des assassins, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est pas ouf, c'est cette mise en scène qui est assez vieillotte, c'est cette modélisation des visages qui est clairement plus haut niveau, c'est même ces animations qui étaient autrefois la force de la saga, qui commencent à accuser un petit peu le coup, quoi. Et j'ai l'impression que la série, elle a tout bêtement perdu de sa pertinence dans l'industrie du jeu vidéo en 2023, et qu'elle a vraiment besoin d'une profonde remise en question, quoi. Alors, je peux entendre que ça peut paraître injuste, tu vois, de faire le procès de la saga Assassin's Creed au moment de parler de Mirage. Et ça sera peut-être injuste qu'il ramasse un peu, on va dire, pour les autres, hein. Parce que, honnêtement, je l'ai dit, j'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu et je pense que Ubisoft Bordeaux, ils ont accompli leur mission. C'est un vrai épisode d'Assassin. Et il a l'air d'ailleurs de plaire. On a vu un peu les critiques et tout qui sont tombées.
Elles sont tombées hier.
Mais le plus dur, pour Ubisoft, ben, il reste à faire, en fait, maintenant.
Ouais.
Alors, on sait que Assassin's Creed Red, donc celui qui se passera au Japon médiéval, ça a l'air d'être un délire à la Odyssée, donc repartir sur un monde immense, un peu RPG et tout. On espère, en tout cas, que le Assassin XE, donc, qui sera là dans 2 ans, a priori, ben, lui, vienne enfin rebattre les cartes, quoi. Donc, on a un peu, voilà, la croisée des chemins. Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment prendre sur eux de recréer une nouvelle révolution et peut-être de créer le nouvel open world qui va influencer les autres, comme il avait fait à l'époque, ou est-ce qu'ils vont être bloqués dans cette routine qui les étouffe un petit peu, quoi.
Ouais. Alors, moi, je pense que... Enfin, tout ce que tu dis, c'est super intéressant, mais je pense pas que pour Ubisoft, Mirage, c'est un milestone. Enfin, que c'est une étape importante. Je pense pas... Et dis-moi ce que t'en penses. J'ai pas l'impression que Mirage, ça soit un jeu transitoire. C'est pas un jeu de transition. En fait... Ils ont avec Mirage, on va voir s'ils se vendent bien, mais je sais, ça va pas dicter grand chose à l'évolution de la série. Tu l'as dit, le prochain jeu étape, c'est pas Mirage, c'est Red. Et Red, il est dans la lignée en fait de la précédente trilogie, je crois. Et on va voir qu'ils vont être dans le plus grand, dans la grandiloquence, dans le jeu le plus, t'es toujours plus quoi. Le truc, c'est que là, on voit que si l'engouement est là, si les critiques sont bonnes, si le succès est au rendez-vous, ça prouve juste qu'Assassin's Creed a gardé en fait une aura incroyable, que les gens ont envie d'y jouer, que que ça reste, tu vois, extrêmement vivant. Mais Mirage, en fait, c'est un non-événement. Mirage, c'est Rogue. C'est un jeu qui était à la base un DLC, qui est un jeu pas du tout de transition sur la saga, qui est là pour boucher un trou. Là, ils ont eu un anniversaire sans événement, sans jeu. Ils ont une année. Normalement, le jeu devait sortir précédemment. Finalement, ils l'ont calé à Noël. Et en fait, ils ont toutes ces problématiques de, on met un gros assassin à Noël, mais finalement, on le met pas plein pot. Enfin, au prix le maximum pour vraiment dire aux gens, mais vous inquiétez pas, c'est pas un gros jeu, tout ça. Donc, Mirage, pour moi, c'est vraiment une galère pour Ubisoft. C'est que tout est galère. C'est un développement qui est compliqué sur un DLC. Y a pas de jeu qui sorte. Une restructuration éditoriale complète qui a été faite. Et, là, c'est juste que ben il est sorti, qu'est-ce qu'on fait, comment il est apprécié, est-ce qu'il va se vendre? Moi c'est ultra
je me demande justement moi si son destin commercial, il peut peut-être quand même envoyer un message, je trouve, tu vois, sur ce côté.
Tu crois?
Arrêter de faire en sorte que les suites soient toujours du toujours plus.
Sur Red, c'est mort.
Ouais, sur Red, c'est mort parce que c'est déjà engagé et tout, mais peut-être que si Mirage fonctionne, ça peut, voilà, Ubisoft va se dire, écoutez, le côté retour aux sources, ils aiment bien, et le retour à un scope aussi plus réduit et raisonnable, ils aiment bien aussi les joueurs.
Moi, je sous-signe ça à 2000%, mais moi, Mirage, moi, je suis d'accord 100% avec ce que tu dis, mais moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais c'est un biais ou de confirmation ou un biais de perception. C'est-à-dire que moi, la saga Assassin's Creed, je l'ai décroché avec la précédente trilogie. Et là, ce que me propose Mirage, ça me correspond à moi à 2000%. Moi, je veux un Assassin's Creed comme ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est la ligne directrice de la saga. C'est pour ça que je dis que c'est entre guillemets ou un non-événement ou pas du tout un jeu milestone. C'est que je pense pas que la réception, qu'elle soit même publique ou critique ou ce que tu veux, puisse donner une impulsion assez forte pour qu'Ubisoft change en son braquet. Valhalla, ça reste, bon, on va voir avec Mirage, hein, mais j'ai peu de doutes, Valhalla reste encore le plus grand succès, le plus vendu, le plus consacré, j'imagine. J'ai peur, en tout cas, moi.
Donc tu penses que c'était une sorte de petite bulle comme ça, et qu'on va repartir sur des bases comme...
Oui, je pense qu'on va être dans le too much Red. Red, ça sera 70 heures de jeu, ça sera un jeu techniquement hyper impressionnant. Surtout, ils ont leur preuve à faire sur le Japon après Tsushima qui est passé et qui a montré un peu la voie. Tsushima qui s'est vendu par palette. Donc, moi j'ai peur. En tout cas, moi Mirage, c'est il a tapé la cible genre moi qui me convenait, mais sur le bilan que tu dresses, je suis d'accord.
En tout cas, quoi qu'il en soit, faites-vous votre avis parce que selon comme on l'a dit, votre affect pour la série. De toute façon, le jeu, il peut se trouver à moins de 40 balles, hein, donc, voilà. Vrai. Et ça, je pense qu'il suffira quand même à contenter les fans de la série historique, comme toi, comme moi. Il fait quand même très bien le job, quoi, là-dessus.
Mais tu vois, par exemple, c'est comme ce prix. Moi, j'étais fâché dans les précédents réalisateurs. Je disais, mais Ubisoft, vous assumez pas. Vous assumez pas le fait que Mirage, c'est un jeu à plein prix. Parce que, depuis quand on paye la durée des jeux, tu vois? Non. Et ça prouve encore à mon sens, que c'est pas la vraie direction d'Assassin's Creed. Si le nouveau Mirage, ça devait être la nouvelle direction des assassins, ça aurait été un épisode de plein pied, qui est assumé à 70 ou 80 balles, et qui aurait eu, bon, alors après, le fait qu'il n'y ait pas la Killer Features, un truc qui est vraiment nouveau, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est encore une fois qu'un DLC avec un studio qui est assez jeune, assez neuf. Mais, Ubisoft, ils arrêtent pas de dire, ben non, mais c'est moins cher, et puis c'est... attention.
C'est qu'ils se sont un peu piégés eux-mêmes là-dessus. Hein,
et encore... Ils vont faire le contraire, tu vois, c'est hyper dur.
Ouais, mais tu vois, c'est ton assassin qui sort en fin d'année avec cette pression associée du gros assassin habituel.
Ils ont voulu esquiver Noël.
Mais il est vendu moins cher, donc ils se mettent un petit peu des pièges là-dessus. Et c'est vrai qu'on fait que dire qu'il a un scope réduit. Enfin, moi, je l'ai terminé en 16 heures de jeu à peu près. Enfin, ça reste la durée de vie de tous les assassins, quasiment sortis de la trilogie RPG qu'on a connue récemment, quoi.
Non, mais, je sais pas, il y a Alan Wake 2 qui va sortir dans quelques semaines. Est-ce qu'on attend que Alan Wake 2 fasse 40 heures? Il y a plein, après c'est peut-être pas un monde ouvert, tout ce que vous voulez, mais il y a plein de jeux triple A qui sortent, quel que soit leur genre, qui font entre 10 et 20 heures, et ça ne pose pas spécialement de problème.
Carrément.
Donc, franchement, là, il y a vraiment une appréhension à avoir en fonction de ce que vous attendez de la série Assassin's Creed. Bah, peut-être que s'il reconnaît un grand succès, bah, ça donnera l'impulsion à Ubisoft de dire, bah, le public attend ça. J'ai des doutes, mais en tout cas, le temps nous donnera raison ou pas. Il est temps de se poser comme Assassin's Creed Mirage, on va se tranquille. On va faire un petit interlude de top 3. Un interlude de top 3 cette semaine qui s'intéresse aux boîtes de jeux. Attention.
Attention.
On ne parle pas des jaquettes, de la beauté des jaquettes.
Ouais.
Et même si tu es d'accord, on le fait la semaine prochaine.
Voilà.
Alors, semaine prochaine, on fait top 3 des jaquettes, les plus belles.
Voilà, donc
jaquettes.
L'illustration, le dessin sur la jaquette. Là, c'est la boîte en tant que telle, son côté fonctionnel, voilà. Son côté les matériaux, tout
voilà.
Ça quoi.
Est-ce qu'elle est pratique, est-ce qu'elle est agréable? Le top 3 des boîtes de jeux. Nico, je te laisse commencer. Là ça va se taper, là. Je vous le dis.
Alors, moi, c'est un top 3, pas tant de la meilleure à la moins bonne. Ça sera chaque étape, une sorte de petit truc.
Moi aussi, j'ai un petit twist.
Donc, le 3, ça sera la boîte pas ouf.
Okay.
Pour moi, c'est la boîte Nintendo 64. Parce que les boîtes Nintendo 64, c'est le carton. Donc, au moins, on avait sur Super NES et tout. T'ouvres à l'intérieur, encore plus de carton. T'as ton petit emballage. Enfin, c'est pas pratique. Quand tu l'ouvres, tu la démontes forcément. Et en plus, ça, c'est galère à conserver, quoi. Donc, là-dessus, enfin moi j'ai encore des boîtes
64
chez moi.
Mais elles sont en bon état les tiennes.
Ouais, mais c'est pas, il faut être vraiment très très soigneux pour
très,
que
très méticuleux.
Enfin, quand tu les ouvres normalement, ça foire quoi.
Bah alors moi mon top 3 ça sera j'allais dire la Super NES. Boîte de la Super NES, mais ça peut être la 64, ça peut être la NES, ça peut être la Game Boy, ça peut être la Game Boy Advance. En fait, un petit peu Nintendo, c'est vrai que leurs boîtes sont éclataxes. Enfin, le carton, excuse-moi, mais le carton.
Carton.
Et la préservation du jeu vidéo. Et la praticité. En occasion, les Mint, c'est fini sur Nintendo parce que bah, le carton, c'était chaud. Après, évidemment, ils étaient sur une techno qui était cartouche, donc plus complexe, packagée, on va dire. Donc, le carton, oui, évidemment, mais moi, j'ai toujours trouvé ça pas pratique, défoncé. Toutes mes boîtes Game Boy, elles sont éclatées. Enfin, le carton de Nintendo, donc voilà, mon top 3, c'est les pas bonnes boîtes.
Carton rouge pour le carton.
Carton rouge pour le carton. Toi, top 2, c'est quoi un petit
alors,
peu?
Alors, mon top 2, c'est la boîte qui me stresse.
Ah.
C'est la Switch, parce qu'à chaque fois que j'ouvre la Switch, je vois ce putain de mini cartouche dans une boîte qui est 12 fois trop grande. Et là, je me dis, putain, c'est abusé. Alors, peut-être qu'il faut quand même une taille minimale, tu vois, pour pas que ce soit trop petit, tu vois, que ça se pomme ou que...
Ah, si ça fait la taille de la cartouche, à un moment...
Mais là, enfin, là, on a quand même la cartouche, tu peux en mettre combien, 15 dedans, une boîte Switch, je pense. Ouais. Surtout que maintenant, évidemment, t'as plus de livret et tout, donc t'as cette espèce de truc de plastique gigantesque, tu l'ouvres, et t'as ta mini cartouche dedans. À chaque fois, ça me stresse.
Ouais. Ah, je comprends. Mais bon, on sera pas forcément d'accord, du coup. Alors, en top 3, j'avais Nintendo. En top 2, je vais mettre Sega. Alors, je vais en désigner une boîte,
oui.
La Dreamcast. Mais mon top 2, c'est un peu les boîtes que j'aime, que j'affectionne, c'est mes préférés, mais je sais
c'est pas logique,
pas forcément les meilleurs.
Du fanboyisme.
Dreamcast, je trouve belle, ce bleu, je trouve beau, les deux volets et tout.
Elles sont méga épaisses pour rien. Il y a deux côtés, ça s'ouvre des deux côtés. Tu sais pas pourquoi?
Toi, tu sais pas pourquoi, parce qu'il y en a.
Pour le coup, en plus, elles étaient hyper fragiles. Combien de boîtes Dreamcast elles sont pétées?
Évidemment, évidemment. Mais je suis d'accord. Saturn Europe, moitié carton, moitié plastique.
Oui, alors ça, c'est le pire des deux mondes.
Mais c'est fin, c'était élégant.
Ah ouais, non, c'est
fin.
Ouais.
La Mega Drive, on en a parlé avec Ken. L'élégance, la praticité, le niveau de finition infini.
T'es un peu en train de tricher là. C'est
pas
ce
du
que
tout.
T'es en train de nous dire.
Non,
quoi.
Mais tu vois, c'est des boîtes que j'aime bien, mais elles sont éclataxes, tu vois. Mais bon, Dreamcast, je pense qu'elle symbolise bien le
côté
éclataxe.
Ouais, ouais,
mais j'aime bien.
Genre, il y avait une idée, mais tu sais pas à quoi elle répond, quoi.
Non, tu sais pas pourquoi, mais elle est jolie. Allez, ton top 1.
Alors, mon top 1, c'est celle que je trouve vraiment cool. C'est la NES. Pourquoi?
Ce carton très
parce
solide.
Parce que t'as un carton comme ça, avec ce côté élégant, élancé, la boîte est lancée. On aurait dit un CD du futur. Et surtout, à l'intérieur, t'avais cette espèce d'étui noir. Je sais pas, tu te rappelles?
Oui,
cette espèce
c'est vrai.
De, voilà,
c'est
où
vrai.
Tu glissais ta cartouche dedans. Et ça, quand j'avais 6 ans à l'époque ou 8 ans, pour moi, c'était le turfu, quoi. Déjà, ouais, avec ce côté où tu mettais la cartouche, t'appuyais dedans comme un magnétoscope du turfu. Et là, le fait d'avoir ce truc.
Calme-toi, c'est plus la boîte, là.
Cette cartouche en plus, ça, ce truc que tu glisses dedans, là, je trouve que c'était ouf. Et ouais, ça venait solidifier un petit peu cette boîte.
Très écolo, tout ça, quand même. Du carton, du plastique.
Ah, écoute, à mon époque, on avait d'autres problèmes. C'était la couche d'ozone, le problème.
C'est vrai, mais c'est bon, la couche d'ozone, c'est bon. Mais, tu vois, ils avaient mis du carton et du plastique à l'intérieur, ouais, c'est absolument illogique.
C'est ceinture et bretelles, monsieur.
Non, ah, t'es dingue. C'est que le matériel solide est à l'intérieur du matériel qui est pas solide.
Et ouais, mais ça protégeait bien. Et puis, quand tu l'amenais chez des potes, tu disais non, je laisse le carton chez moi pour pas l'abîmer, je prends que le truc noir. Putain, mais comment ça s'appelle ce truc noir?
Un fourreau.
Voilà, merci.
Mais c'est absolument illogique. Hein, tu viens de le prouver là. Genre quand tu vas chez un pote, t'amènes le fourreau plastique.
Eh oui, parce que pas abîmer le carton, c'est tu le laisses chez toi. Avec la boîte. Là.
C'est un peu aussi un petit peu de fanboyisme. Hein. C'est le top 2. Alors tu verras, mon top 1, moi, il est pas du tout fanboy. Oh. Parce que c'est ce que j'estime être la meilleure boîte, okay, la plus pratique. Okay. Ben, c'est la Switch. Okay. Je trouve que alors comme tu dis, c'est vrai que c'est assez illogique que la cartouche soit toute petite, mais je trouve que c'est la plus élégante au niveau de la taille, au niveau de la finesse, elle est top. En dérivé, il y avait la PS Vita qui était un petit peu dans ce délire.
Oui.
La 3DS, ouais, et la PSP. Ouais. Il y avait une petite frange un petit peu de boîte comme ça
pour les portables, quoi, les portables ça.
Et ouais, t'as raison. C'est les portables, j'avais pas percuté. Les grosses consoles de salon, c'était des grosses boîtes. Et puis les petites consoles de portables, c'est des petites boîtes. Alors vraiment là.
Aucun de nous n'a cité les boîtes de jeux PC qui étaient à la fois encombrantes, moches et grandes.
Parce qu'on n'avait pas ce genre de mec.
C'était les
gens
des boîtes à chaussures.
C'est trop évident.
Non, mais boîtes à chaussures, quoi.
On n'a pas cité toute la frange de boîtes DVD.
Ouais, qui a aucun intérêt.
La GameCube, c'était un peu sympa. Un peu plus petite avec, rappelez-vous. Est-ce que vous savez à quoi correspond le petit triangle de couleur sur le dos? On vous le dit pas, cherchez. Mais
on l'a appris aujourd'hui.
On l'a appris, Ken nous l'a appris aujourd'hui. Ken, il sait tout. Hein. Sur les trucs un peu techniques, il est là. Donc voilà, le top 3 des boîtes de jeux. Voilà, s'il y a de tout, hein, il y a pas trop de logique, hein, quand même, j'ai l'impression, là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Qu'est-ce qui est le plus stylé? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous proposer d'autres top 3. Semaine prochaine, top 3 des jaquettes. Allez, on vous annonce même les top 3 en avance. Maintenant, changement d'ambiance. Radical.
Les voitures.
On va parler des vagos, comme on dit. Forza Motorsport et The Crew Motorfest. Alors, on va parler cette fois de l'identité des jeux de voitures. Et ça, à travers les deux exemples que je viens de citer. Mais l'identité d'un jeu de voiture, c'est quoi? Comment ça se distingue? Est-ce qu'on parle du pilotage? Est-ce qu'on parle des voitures, des réglages, de l'enrobage? C'est pas très très évident. On va essayer de démêler tout ça ensemble. On va commencer par Forza Motorsport qui sort le 10 octobre prochain. Il sera disponible sur le Game Pass Day One. Événement, hein, après Starfield pour Microsoft, quelque chose qui est pas négligeable. C'est pas encore le 10.
Non, c'est bon. Mais oui, il est pas sorti encore.
Alors c'est un jeu, Forza Motorsport, qui se présente avec sérieux. On n'est pas là pour blaguer, hein, je te le dis. Hein. C'est le retour de la simu. Alors, calmons-nous, c'est comme Gran Turismo 7, c'est pas de la vraie sim racing.
Ah, tu fais le mec, là.
Non, mais c'est juste que c'est de la... par exemple, dans les jeux de foot, il n'y a pas différents niveaux de jeux de foot. T'as les jeux d'arcade de foot et t'as les jeux de simu de foot. Mmh. En simulation automobile, c'est vrai que t'as plusieurs échelons. Là, on est dans le jeu où si tu veux aller à la filoche, vraiment dans les réglages, tu peux, mais tu peux t'as quand même taper un frein à main en pleine course, tout va bien se passer, tu vois. Et alors du coup, les Forza en mode simulation, ça fait quand même 6 ans qu'on l'attend, cette version en motorsport.
6 ans, putain. Ouais.
Et du coup, depuis, c'est surtout la branche fun, hein, qui s'est fait connaître avec Forza Horizon, c'est elle qui a pris de la place. Et donc, sur ce motorsport, le sérieux, il va se traduire à travers divers points. Alors tout d'abord, c'est sérieux parce qu'il n'y a pas de musique. Pendant les courses, pas de musique, c'est du silence, t'es là pour écouter la course. Avant ça, dans le mois de carrière, t'as une petite voix qui t'explique, mais la voix, elle est pas du tout enjouée. Hein. On n'est pas là pour blaguer, c'est pas Forza Horizon qui font yeah, yeah, yeah. Non, c'est tranquille. Et pendant la course, pas de musique. Si tu veux de la musique, tu dois te débrouiller. C'est sérieux aussi parce qu'il y a 20 circuits, on n'est pas dans la démesure. Alors 20 circuits, attention, c'est 20 pistes, c'est moins de 20 lieux. Donc tu vois, t'as par exemple, je dis n'importe quoi, Silverstone, t'as le circuit complet, t'as le petit circuit. Oui. Ça fait 2 pistes.
Oh, c'est classique ça.
Donc on est sur des circuits sur piste, sobre, rien d'urbain. Il y a pas le circuit à Las Vegas là, on n'est pas là pour rigoler, on est sérieux. Petite nouveauté qui arrive dans les Forza, c'est que pour chaque course maintenant, il faudra te plier aux essais libres. Donc avant chaque course, que ça soit en tournoi, tout ça, il va falloir que tu fasses des essais libres. En deux mots, les essais libres, c'est ce qui se passe dans les courses automobiles où t'es là pour essayer tes réglages, faire tes temps, voir tes runs sur différentes gommes, tout ça.
C'est pas un peu chiant, quand même, parce que...
Alors, C'est très court, c'est-à-dire que c'est un nombre de tours donné en fonction de la longueur du circuit, c'est 2-3 tours, et t'as un objectif de temps en fonction du niveau de difficulté que tu vas choisir, en te disant, bah, si t'arrives pas à faire ce temps, tu vas sûrement galérer après par la sur la course. Néanmoins, tu peux faire start, tu fais passer, okay. Tu peux. Mais c'est pas, on te le dit pas que tu peux passer. Okay. Et c'est aussi une passe obligatoire, t'es obligé de faire les essais libres. Et les essais libres, bah, ça annonce la couleur. En fait, le jeu, il nous dit qu'il faut bosser ses trajectoires et connaître le tracé. Ça, c'est intéressant comme démarche, mais uniquement s'il y a un intérêt pour le joueur. Uniquement si par la suite, on est challengé, et donc si connaître le tracé est nécessaire pendant la course. Sauf que bah, c'est pas du tout le cas. Et c'est pas le cas à cause de la difficulté du jeu. Et le niveau de difficulté, bah, c'est dur à gérer dans un jeu de voiture. Et pour prévenir ce souci dans Forza, mais aussi dans tous les autres jeux de voiture, bah, y a beaucoup de personnalisation. Aide à la conduite, niveau des adversaires, etc., etc., etc. Et toutes ces options, elles sont modifiables à l'envi. Et de ce fait, bah, le challenge, bah, faut aller le chercher tout seul. Il faut être rigoureux, il faut s'y tenir. Sinon, bah, tu roules sur le jeu, grosse blague. Et ces réglages de la difficulté, tu l'as eu?
Oui.
Parce que j'ai vu que t'as pas rigolé, ça m'a un peu déçu. Donc, ces réglages de la difficulté, bah, ils vont conditionner plusieurs choses. Et en fonction de nos choix, bah, il y aura une gestion des pénalités et des dégâts qui est assez importante. Sauf que, bah, c'est très dur aussi à gérer l'IA dans les jeux de caisse. Par exemple, quand une voiture te rentre dedans, bah, ça va engendrer des pénalités et des dégâts. Sauf que cette voiture qui nous pète dedans, ben comment le jeu va gérer son intention? Comment le jeu va reconnaître que l'intention de l'adversaire était malveillante ou inappropriée? Et que c'était pas simplement le mec qui prenait son virage et qui te prenait un petit peu court? Eh ben, là, c'est vraiment pas très très bien fait et c'est vraiment pas évident. Et ça va couper court tous les enjeux concernant les pénalités. Les pénalités, à un certain niveau, il y en a quand même pas mal. Donc, c'est pas évident. Enfin, dernier truc qui traduit un petit peu le ton sérieux du jeu, bah, c'est le mode carrière qui se présente sous la forme de tournoi, très simple. Alors, pas de café à la Gran Turismo, hein, pas de barista. Dans ces tournois, on gardera la même voiture et ces tournois, ce qui est cool, c'est qu'ils sont un petit peu longs et c'est une bonne chose car, en fait, ça te permet de bien apprendre à connaître la voiture que tu as choisie et du coup, t'as pas des bolides tout de suite hein, au début. Hein, faut manger ton pain noir avec des voitures pas ouf. Moi, j'aime bien galérer. Je trouve que la courbe d'évolution, tu vas pas tout de suite taper une McLaren, c'est cool. Néanmoins, pour évoluer dans les tournées, il va falloir un petit peu la pimper, la voiture. Sauf que bah, tout l'aspect customisation des voitures peut être totalement automatisé. En un clic, tout se fait tout seul. Et franchement, moi, je me demande à quoi bon. Mais avant de me dire que je suis un élitiste, attendez, on va y revenir. Du coup, on commence à voir que chaque élément de l'identité de ce Forza entre toujours en contradiction avec son application en jeu. On vient de le voir, ce Forza est un jeu qui se veut sérieux, un jeu sur l'art du pilotage, mais pour ça, il fait des choix contestables, voire contradictoires, avec la posture qu'il veut aborder. Et c'est le cas avec la difficulté, les essais libres, les réglages. En fait, ces choix de design ne portent pas l'identité du jeu dans le jeu, mais seulement leur intitulé. C'est pour ça que je parle de posture. Le jeu n'est pas radical. Il se prétend être, mais il ne l'incarne pas. Ce qui est dommage, je trouve, quand on veut affirmer son identité.
On en parlait tout à l'heure, hein, le gimmick, la forme un peu superficielle, quoi.
Ouais. Alors là, c'est vraiment pire, c'est l'intitulé. Et après, quand tu joues, tu fais, ah, mais c'est pas du tout ce que tu m'as dit. Et pour marquer l'identité de Forza Motorsport, l'objectif numéro un pour le studio Turn10 et Microsoft, c'était se démarquer de Horizon. Horizon, c'est le nouveau taulier du genre, c'est le plus reconnu, le plus joué, le plus attendu des jeux de voiture. Après, pour se démarquer, il y a une solution simple, bah, c'est changer de nom. Leur choix a été de revenir à une appellation facile, simple, sans numéro, Forza Motorsport. Tout simplement, sans rien. C'est pas anodin comme décision, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un reboot, une révolution, un renouveau? Putain, j'ai l'impression qu'on parle de Mirage, là. Alors, s'éloigner de Horizon, c'est une chose. Mais c'est aussi faire le choix de s'éloigner de ce qui fonctionne. Et ça, c'est plutôt risqué. Du coup, le studio y est allé à tâtons. Et dans ce motorsport, il y a pas mal de l'identité de Horizon. Et manque de bol, bah, ils ont pas conservé les bons côtés d'Horizon. Dans Motorsport, il y a toute une couche de systèmes de récompenses. Des systèmes de récompenses qui est nul, complètement vide de sens, qui est clairement tiré d'Horizon. En jeu, bah, tu reçois des récompenses pour tout. Tu fais un dépassement, tu gagnes des points d'expérience. Tu fais un bon temps à un secteur, tu gagnes des points d'expérience. Tu arrêtes une course en plein milieu d'une session, pas grave, hein, tu gagnes des points d'expérience. Et avec ces points, bah, tu vas monter en niveau. Sauf que bah, tu comprends pas bien à quoi correspondent ces niveaux. Et surtout, à quoi ils servent. Enfin, au début, tu comprends pas parce que rapidement, tu captes que c'est pour débloquer les pièces et les réglages des voitures. Ces mêmes réglages hein, qui peuvent être automatisés, vous vous souvenez ? On voit bien ici que l'important, c'est pas la qualité ou la précision des réglages parce qu'on est limité. Il faut gagner de l'expérience pour pouvoir débloquer les pièces, pour pouvoir débloquer les réglages que tu fais en un bouton. Donc finalement, le seul truc qui compte, c'est pour le jeu, hein, ce qu'il nous dit, c'est accumuler des points d'expérience. Et vous vous rappelez les différents choix à faire pour la difficulté. D'après vous, quelle est la carotte pour nous inciter à jouer à un niveau plus élevé? Bah oui, les points d'expérience, c'est ça. En fait, tout le jeu est articulé autour d'une mécanique un petit peu perverse, c'est ces points d'expérience. Et ce système de récompense, il est important, non pas parce qu'il nous rappelle le RPG, mais parce que c'est un système de rétention. On croule sous les petits bonbons hein, qu'on nous donne, des niveaux, des trophées, et de ce fait, ben, on reste dans le jeu. On est sans cesse stimulé, comme une drogue, on a besoin de notre fixe de dopamine, le truc c'est qu'on est excité par des données chiffrées à la con, et non pas par le challenge en course, par l'adrénaline au volant, ce qui est, je trouve, ben, quand même une belle aberration. Et j'ai rien contre les récompenses et la ludification, hein, au contraire. Rappelez-vous les kudos, par exemple, dans MSR, on en a parlé il y a pas longtemps. C'était du génie. C'était un système qui nous faisait gagner des points en fonction de notre conduite. C'était trop bien, déjà, parce que c'était souvent punitif. Donc pas uniquement dans la gratification, c'était un challenge. Mais aussi parce que ça prenait effet sur la piste et non pas en dehors de la piste. Et puis, on repense au nom du jeu, Forza Motorsport, j'arrive pas à le dire, hein, seul. Forza Motorsport. En fait, c'était pas pour rebooter la série ce nom, mais pour en faire un nouvel étendard, une sorte de plateforme qui va tenir sur la longueur pour en faire un game as a service. Bah, surtout que le jeu, il est dans le Game Pass, donc il est presque en free-to-play en sensation. Tu payes l'abonnement, mais quand même, quand t'as l'impression que le jeu il est là day one, tu te dis « Ah, c'est gratuit !» Et la structure du jeu, bah, elle a déjà été pensée comme telle, parce que la campagne solo, au final, bah, elle est assez courte. Mais quand tu regardes les autres tournois qui sont encore indisponibles, bah, tu vois déjà un grand nombre d'événements qui sont à venir dans plusieurs mois. Ça, c'était quelque chose qui était déjà dans les précédents Forza, mais là, tu vois qu'en prime, t'as un truc qui s'appelle le Car Pass, le VIP Pass, pour avoir voiture et points d'expérience en plus, si tu payes. Mmh. En revanche, monter une voiture, donc les voitures, elles ont aussi un niveau, monter une voiture en niveau max, donc débloquer tous les réglages et toutes les pièces, ça, c'est long. Et c'est logique, parce que bah, si tu payes, bah, tu pourras le monter plus vite. Bon, le côté Game as a Service, c'est un peu triste, mais c'est surtout une triste réalité pour de nombreux jeux et séries. Je pense au récent Mortal Kombat 1, qui tente un petit peu la même manœuvre, avec un jeu qui va tenir sur la longueur et un reboot du nom. Alors Gran Turismo 7, que j'apprécie, bah, avait aussi ce côté Game as a Service, avec un jargon très casino, vraiment pas reluisant, j'avais détesté ça, mais GT7, bah, il avait une histoire à raconter. Forza Motorsport, bah, j'ai l'impression qu'il a rien à raconter. Il est là pour occuper une place dans un échiquier stratégique. C'est une simu auto de Xbox qui se place face à Horizon, le jeu fun de voiture de Xbox. C'est une technique simple pour Microsoft. Il faut occuper tous les secteurs, tous les genres et donc tout notre temps de jeu. Et avec un game as a service, c'est encore plus pratique. Après, il faut pas être naïf, hein. Absolument tous les jeux ont un objectif économique et stratégique. Mais c'est quand même toujours plus agréable quand derrière tu vois qu'il y a un jeu. Mmh. Parce que là, derrière, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment un jeu, ce qui m'a un petit peu déçu.
C'est vrai qu'en tant que néophyte des jeux de voiture, ça rigolo que les fans attendent qu'ils te racontent une histoire et tout. Alors pour moi, c'est juste, ouais. Tu roules sur des circuits.
Bien sûr. Après, quand je dis une histoire, tu vois, c'est pas vraiment, enfin, j'attends pas un mode carrière.
Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, un arrobage, quelque chose, une ligne directrice.
Ou même, alors je doute pas que Turn 10 ne soit pas passionné. Enfin, c'est un studio qui a été fondé sur ça et tout. Mais, là, la mission qu'ils ont eue, tu vois, vraiment comme des guerriers, c'est, à mon sens, faites la nouvelle plateforme automobile pour ça. Et donc, c'est pas... moi, j'ai pas trouvé ça agréable, j'ai trouvé ça très, très prégnant, en fait. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ouais. C'était vraiment très triste.
Et sachant qu'il y a peut-être aussi des questions d'ego, parce que faut se rappeler qu'Horizon, c'est une émanation de Forza à la base, hein, c'est un spin-off de... Enfin, c'était Forza Motorsport, la série principale. Ouais. Est-ce que les mecs, ils ont pas été un peu piqués au vif de voir qu'ils étaient relégués un peu?
Comme tu le dis, c'était pas le même studio, c'est Playground qui fait Horizon.
Ouais.
Et là, Turn 10, c'est eux, hein, le studio historique. Hein,
ouais, donc... et quand tu dis Forza, aujourd'hui, tout le monde pense à Horizon, quoi.
On va parler maintenant de The Crew Motorfest. Quelle est l'identité de The Crew Motorfest? Alors, The Crew Motorfest, c'est une copie de Forza Horizon. Alors, copier ce qui fonctionne, franchement, ok. Moi, je comprends. Horizon, c'est le nouveau modèle, on l'a vu. Mais Horizon, il a un angle mort, il a une faiblesse, faiblesse que Ubisoft va exploiter. Forza Horizon, c'est un jeu exclu Microsoft. Et donc, ce qui caractérise The Crew, c'est qu'il est multiplateforme. Le hasard faisant bien les choses, hein, les petites particularités de la série The Crew, un boost du multivéhicule, bah, suffit pour dire que c'est un petit peu plus que du Horizon. Mais sinon, pour le reste, bah, c'est du plagiat. Alors attention, hein, le jeu est bon, il est même très bien, mais c'est une copie de Forza Horizon. L'identité du jeu se fait en regard d'un autre jeu et de la plateforme sur laquelle il est disponible. Du coup, si le jeu est bien, bah, c'est quand même un peu triste comme constat. C'est quand même triste en termes d'identité de s'affirmer par absolument tout, sauf ce qui constitue le corps du jeu. Et voilà, j'ai fini pour The Crew. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. En conclusion, bah, je dirais que tout le monde veut être Forza Horizon. Que ça soit la branche simu de Microsoft avec Forza Motorsport ou la concurrence avec The Crew Motorfest. Tout le monde s'inspire de Horizon. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un modèle dominant peut être un souci? Est-ce que ça peut être un souci si ce modèle se voit copié et que par conséquent, il va engendrer une certaine uniformité du secteur du jeu de voiture? Dans le même ordre d'idée, et pour faire un parallèle pop culture cette fois, est-ce que le MCU ou Hans Zimmer sont un problème? Ce sont deux modèles de production de films et de musique si dominants qu'ils ont influencé une industrie entière, Hollywood. Mais surtout, faut-il les blâmer? Alors, tout ça, c'est un sujet assez costaud, qu'on verra peut-être dans une prochaine émission, vu l'ampleur de la tâche. Mais pour terminer sur une analogie culinaire, comme on le fait souvent ici, je vous propose une réflexion d'un chef qui disait que s'il n'arrivait pas à donner le goût des bonnes choses à son enfant, alors qu'il est chef, c'est pas la faute de McDo, mais plutôt de la sienne. Donc en gros, tous les copieurs de Forza Horizon, qui sont 2K Drive, Riders Republic, même Forza Motorsport, maintenant c'est vraiment devenu un modèle qui est dominant, pas forcément la faute de Forza Horizon, donc c'est aux autres de se remettre en question.
Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que l'expérience nous a montré que le Ubisoft récent, en général, copie les tendances, mais toujours un petit peu à la bourre. Est-ce que ça montre pas que le modèle Forza Horizon arrive en bout de course? Je sais que toi, justement, ça fait un ou deux épisodes où tu commences clairement à dire, ça y est, on a fait le tour, maintenant, faut passer à autre chose. Est-ce qu'on n'arrive pas déjà en fin de ce truc? Là où tout le monde s'en inspire, en fait, on est déjà à la fin du phénomène.
C'est vraiment hyper involontaire. Mais Horizon et Assassin's Creed, il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que Horizon était surexcitant parce qu'il y avait un nouveau setup, il y avait un nouveau pays avec un nouvel environnement, une évolution par itération, une petite brique de nouveauté à chaque Forza, petit à petit. Et en fait, on arrive un petit peu au même constat de qu'est-ce qu'il en est maintenant. Assassin a influencé une industrie entière. Horizon est en train d'influencer tout un genre. On est peut-être à une butée de dire ça y est, on a tourné en rond, on a fait cette fameuse révolution, on est revenu sur nos pieds. Je sais pas, mais j'avais pas fait le lien, mais Horizon Assassin, il y a un petit peu le même délire.
Ouais, et c'est vrai, encore une fois, la question peut-être de néophyte, et tu vas me dire mais c'est pareil que pour les autres genres, mais autant le monde ouvert, je peux entendre qu'il y ait des pistes pour transformer, changer, tu vois, comme on a fait Zelda et tout, ou Death Stranding. Est-ce que le jeu de voiture, il a un potentiel d'évolution et de mutation comme ça un peu infini, ou
du moment où moi je suis pas dev, c'est vrai que j'ai pas les idées pour, mais Horizon a prouvé qu'il y avait quelque chose, tu vois, à faire. Après, moi, ce qui m'a vraiment dérangé sur Motorsport, c'est cette surcouche un peu nauséabonde qui fait que ça va gâcher le jeu. Je voulais à peine dit, mais il est bien Forza Motorsport, mais t'as vraiment quelque chose qui infuse dedans et qui rend le jeu désagréable. Et finalement, ta question, c'est qu'est-ce qu'est l'évolution? Qu'est-ce que va nous donner le jeu de voiture demain? Si c'est ça la nouveauté, si ça veut dire que tous les nouveaux genres maintenant vont être un petit peu imbibés de ce truc game as a service et tout, c'est chaud. Franchement, c'est chaud parce que ouais, on veut quelque chose, tu vois, un jeu net, propre, avec du contenu. Moi, j'avais dit que GT7, c'était un jeu d'amoureux parce que tu sentais que les mecs, ils en pouvaient plus, ils étaient là, ils en mettaient partout. Mais GT7 aussi avait ce petit jargon casino, ils avaient des microtransactions et tu sais, ça donne un goût, c'est pas cool quoi.
Oui, surtout qu'ils avaient changé les potards en termes de reward et d'argent après la sortie des tests et tout, en mode un peu sale quoi. Donc,
ouais. Et il y a toujours une façon, Gran Turismo, c'était quoi qui était long, en fait t'avais un système d'expérience aussi qui était assez conséquent. Là dans Forza, c'est pour monter les voitures que c'est long. En fait, on te fait de la rétention, tu le vois, on te dit mais non mais reste, tu vas voir, puis ça va pas assez vite, t'inquiète paye. En fait, on se détourne du sujet du jeu.
Laisser la putain de monétisation en dehors de nos jeux. Quoi.
Ouais, c'est voilà. Donc, écoute, on est plutôt sur une émission avec des bons jeux et avec des sentiments, on va dire, contrastés.
Ouais, parce qu'on est des vieux joueurs, voilà, voir
vieux,
un peu trop.
Des vieux joueurs malades. Voilà. Aujourd'hui, on est...
On est le Muppet Show du jeu vidéo. Voilà.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, ou ce que vous allez penser, parce que Mirage sort aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, et Forza Motorsport sort le 10. Faites-nous un retour quand vous serait essayé aux deux jeux. Alors c'est quoi dans l'ordre, tu vois, je suis pas bien là. Alors attends, d'abord on fait des bisous.
D'abord lâchez vos pouces et des bisous.
D'abord des bisous. Merci à tous. Alors pour votre fidélité, déjà personne n'a écouté la semaine dernière, donc nul.
Ouais, franchement. Vous étiez triste, hein, ça nous a fait mal au cœur.
Non, franchement c'est cool. N'hésitez pas, mettez vos meilleurs pouces, les notes sur les applis, ça fait super super plaisir. La bise de loin à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo. Et attends, on vous donne pas tout de suite le programme, parce que si vous aimez Assassin's Creed, peut-être que vous aimerez lire un livre sur Assassin's Creed.
Aïe aïe aïe, caché, dissimulé dans l'ombre depuis le début de l'émission, il était là depuis le départ.
Vous nous regardez en vidéo.
Voilà, parce qu'on est une maison d'édition, on sort des livres sur la pop culture, d'analyse d'œuvres, donc jeux vidéo mais pas que, et on a sorti un bouquin sur Assassin's Creed, écrit par Thomas Merer alias Amaibi, hein, le testeur attitré de l'époque Game Cult, qui connaît très très bien son sujet.
Ouais.
Donc là c'est un volume 1 qui couvre jusqu'à l'époque 2014, donc avant Unity, si j'ai pas de bêtises. Et il y a énormément d'interviews de devs, de secrets dévoilés et tout. C'est ultra intéressant. Donc
le préfacier est le créateur de la série. Moi, je dis ça.
Voilà.
Certain Patrice Désilé.
Papa des assassins, comme il dit lui-même. Donc, si vous êtes en pleine bourre assassin comme nous, ben, ça va vous faire kiffer, sachant que oui, il y aura bien un volume 2.
Donc, ah, j'allais te teaser. J'allais faire, ah là, ça veut dire qu'il y aura un... Bah oui, il y aura un volume 2, vous le savez. Et ben voilà, écoute, on se remet doucement en canne. Hein. Là, vous voyez que c'est un petit peu compliqué. La semaine prochaine, il se passe quoi? Alors, je crois qu'on rattrape le...
En fait, voilà, ça sera le sommaire de l'émission qu'on aurait dû faire la semaine dernière. Donc, à savoir, pour moi, en tout cas, on va parler de Phantom Liberty, donc l'extension DLC de Cyberpunk.
Ouais, et pour ma part, ça sera du top 10 all time.
Non oh
Baten Kaitos, qui ressort sur Switch en version HD remaster, je crois, oui, HD remaster, bien sûr, tout à fait. Donc c'est ça, c'est pour la semaine prochaine. Sauf si New York, des Spider-Man, des trucs, on sait pas. Si ça se finit,
oui,
ça...
non, c'est la semaine prochaine, ça m'étonnerait.
Ah, on y croit. On n'y croit pas. On sait pas. En tout cas, si vous voulez savoir, faudra
le programme a l'air
prochaine.
Cool. Donc moi, je serai là en tout cas.
Ouais, mais moi, je sais pas. Allez, merci à tous et peut-être à la semaine prochaine.
Bye bye.